la paix. Il est 12h.
Madame, Monsieur, bonjour, il est 12h, bienvenue dans le journal de ce vendredi 26 avril. La Côte d'Ivoire, pays recommandé pour investir, c'est l'avis des acteurs majeurs du monde économique et financier réunis hier jeudi 25 avril à Abidjan pour la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. 20 juges et procureurs de l'institution judiciaire de Mans ont renforcé du 23 au 25 avril leur capacité en droit pénal et de genre, formation qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire. En page internationale, Human Rights Watch a accusé les forces armées du Burkina aux prises avec les groupes armés djihadistes d'avoir exécuté au moins 223 civils dans un rapport publié hier jeudi. Et en fin d'édition, vous aurez l'invité de la rédaction, Kone Vazoumana, président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, en compagnie de Jean-Mélène Bitti, parlera des propositions de la société civile sur la réforme du code minier ivoirien de 2014. Voilà pour l'essentiel. Économie, la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire qui permet à l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation de présenter un rapport sur les performances du pays. La rencontre s'est déroulée hier mardi à Abidjan-Cocody et il ressort de ce rapport que la notation de la Côte d'Ivoire est passée de 6.2 à 6.5 en 2023 et que le pays reste dans la catégorie de risque faible. Un extrait de l'intervention de Stanislas Zézé, président directeur général de l'agence Bloomfield Investment Corporation.
La Côte d'Ivoire reste dans la catégorie des risques faibles, mais a évolué de 30 points de base. Alors la Côte d'Ivoire passe de 6,2 à 6,5, où nous recommandons l'investissement dans ce pays-là. Et ce qui a tiré cette notation, en réalité, tous les paramètres, le climat des affaires passé de 6,4 à 6,5, la performance macroéconomique de 7,8 à 8,1, la gestion des finances de 6,3 à 6,5, la solidité du système financier de 6,1 à 6,3 et le risque sociopolitique de 4,2 à 4,9. Et donc la Côte d'Ivoire est un pays qui reste résilient, même si nous considérons que la résilience est à moyen terme, que pour une résilience à plus long terme, il sera nécessaire que la tendance que nous observons dans l'économie ivoirienne, qui est que 95% du tissu économique qui est constitué des PME contribue seulement à 20% de la richesse créée et que 5% en réalité des multinationales contribuent à 80% de la richesse. Donc évidemment, dans cette logique-là, dans une crise qui perdure, la probabilité que les 95% maintiennent l'économie pendant que les autres délocalisent, elle est plutôt mince. Il est extrêmement important que la majorité de la richesse soit créée par des entreprises locales.
Stanislas Zézé, président directeur général de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Réagissant aux conclusions de ce rapport, la ministre de l'économie, du plan et du développement a salué la pertinence de ses suggestions, mais a insisté sur les efforts du gouvernement pour améliorer le dynamisme de l'économie ivoirienne. Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement.
Je voudrais le saluer. Le rapport attribue une note globale de 6,5 sur 10 avec des perspectives stables à court et long terme contre une note de 6,2 l'année précédente. On notera que le rapport de Bloomfield sur notre pays est corroboré par l'évaluation qui a été faite par l'agence Moody's, qui a également rehaussé récemment sa notation financière, passant de B à 3, avec une perspective positive en 2023 à B à 2, perspective stable en 2024. Ce rapport montre que malgré le contexte de choc et de crise successives qui prévaut au niveau international et sous-régional, les efforts contenus du gouvernement depuis 2012 portent leurs fruits, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de demeurer dans la catégorie des pays à risque faible. Ce rapport appelle cependant quelques commentaires de notre part. En ce qui concerne les données, certains chiffres sont à actualiser et il en a actualisé quelques-uns, séance tenante. Et également, certaines expressions, à notre sens, devraient être reformulées. Mais pour l'essentiel, donc, nous sommes d'accord avec les conclusions de ce rapport qui nous semble pertinent.
Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Traditionnelle rencontre d'échange entre le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques et agences d'exécution. La rencontre qui s'est tenue hier jeudi 25 avril à Abidjan Plateau avait pour thème bilan 2023 et perspective 2024 en matière de gestion du portefeuille de l'État. On fait le point avec Mata Touré.
Cette rencontre annuelle est non seulement comme un baromètre de pilotage du portefeuille de l'État, mais surtout sa vision pour l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Ce cadre permet de toucher du doigt les difficultés rencontrées par les dirigeants sociaux des entreprises publiques, mais surtout de faire un bilan. Bamba Seydou est le directeur général du portefeuille de l'État.
Un chiffre d'affaires global de 1815 milliards en 2023 contre 1688 milliards en 2022, soit une hausse de 8%. Demain, les résultats nets de ces entreprises sont passés de 91 milliards en 2022 à 129 milliards en 2023, une hausse de 42%.
De son côté, le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a fixé le cap pour l'année à venir, Moussa Sanogo.
La feuille de route gouvernementale pour l'année 2024 met l'accent pour ce qui concerne notre département sur deux points. Le renforcement du pilotage des entreprises publiques et le renforcement du contrôle des entreprises publiques. Sur ces bases, nous poursuivrons les initiatives engagées en matière d'amélioration des politiques de financement afin de garantir des niveaux d'endettement maîtrisés à court, moyen et long terme. Nous nous pencherons également sur la mise en œuvre des recommandations des audits commandités par l'État actionnaire dans les entreprises publiques. Je voudrais également souligner l'optimisation des ressources des entreprises publiques et citer la restructuration de certaines entreprises qui demeurent en difficulté à travers la revue de leur modèle économique.
D'autres chantiers restent à explorer dans cette feuille de route 2024, notamment le développement du capital humain ainsi que la digitalisation des entreprises publiques.
C'est aussi l'actualité devant la prolifération des services financiers numériques en Côte d'Ivoire et les cas d'escroquerie et de détournement de fonds des usagers. L'Association ivoirienne des consommateurs a initié une campagne d'information et de sensibilisation des populations. À Daloa, cette ONG a récemment organisé un atelier de formation des formateurs sur le thème pour des services financiers numériques accessibles, plus sûrs et de qualité. Je m'engage. Ils auront pour mission de diffuser les connaissances qu'ils auront appris à travers des séances de restitution à la population dans leur ville de provenance respective. Le projet est financé par la fondation Bill et Belinda Gates. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Cet atelier de formation vise à mieux informer, sensibiliser et promouvoir en Côte d'Ivoire un marché des services financiers numériques plus équitable et sécurisé pour tous. Moni Gervais est le président de l'Association ivoirienne des consommateurs.
Aujourd'hui, les monnaies, les banques numériques, les prêts en ligne, les transactions numériques sont utilisées par beaucoup d'Ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas informés, ni sur leurs droits, ni leurs devoirs. Et comme on est confronté à beaucoup de on ne sait pas où aller se plaindre, on ne sait pas à qui se plaindre. Et c'est de tout ça que nous avons parlé pour mener ce combat contre ces monnaies numériques.
Katina Touré, le président de la commission régionale des droits de l'homme du Haut-Sassandra, a conseillé la prudence devant les arnaques et les actes frauduleux sur les services financiers en ligne et sur les réseaux sociaux.
Cette façon de faire constitue un moyen fiable de faire les transactions. Mais il faut que l'on fasse attention parce que de plus en plus, des problèmes sont créés. Au niveau des prêts en ligne, il y en a qui sont fiables. Par exemple, les réseaux classiques, lorsque vous prenez un prêt, quand vous sentez que ce que vous devez payer dépasse la norme, il ne faut pas vous engager à cela. Parce que c'est en ligne que ça se fait. Quelquefois, vous n'avez pas de repères pour pouvoir poursuivre ces personnes-là.
Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale de consommateurs internationaux visant à construire des services financiers numériques plus sûrs, équitables et accessibles à tous. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Nous le disions au titre, l'Institut national de formation judiciaire et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont initié récemment un atelier de renforcement des capacités des magistrats de Mans en matière de droit pénal et de genre. Objectif, permettre à ces personnes ressources du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'être en phase avec la bonne application des nouveaux tests de l'État de Côte d'Ivoire. Le point avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tampi.
Cet atelier a enregistré la participation de 20 magistrats, juges et procureurs issus de la Cour d'appel de Mans. L'objectif de cet atelier avec l'analyste justice et de droit de l'homme au PNUD, Pascal Amien.
Nous savons que la loi est une matière qui évolue. Les magistrats actuellement en formation auront leurs connaissances actualisées sur la donnée actuelle de la loi. Donc pourront mieux appliquer la loi qui est actuellement récente. Donc déjà, c'est de rendre une justice équitable, c'est de rendre une justice qui s'y est vraiment à la situation. Déjà, l'idée du projet, au travers de cette formation, lorsqu'on finit et que les juges ont leurs connaissances actualisées et qu'ils vont rendre une justice qui est actuelle, normalement, ça doit pouvoir favoriser la cohésion sociale au niveau de la communauté, donc rapprocher aussi les justiciables de la justice.
Le juge Célestin Begré donne ici son appréciation de ce renforcement des capacités en fin de rencontre.
C'est un réel plaisir pour nous de participer à cet atelier et de convier tous ceux qui sont présents à s'engager résolument dans la prospection de toutes les solutions qui sont indispensables à la bonne application des nouveaux tests de l'État de Côte d'Ivoire qui a signé bon nombre de conventions internationales et ces conventions ont été internées dans le droit national.
Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Autre chose, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, en compagnie des associations d'avocats sans frontières France, l'association des blogueurs de Guinée et d'autres organisations partenaires, ont pris part à 2 ans durant au projet Impact, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et tensions. La cérémonie de clôture du projet a eu lieu hier jeudi 25 avril à Abidjan Cocody, le compte rendu de Didier Blé.
Durant 26 mois, de 2022 à 2024, il a été question au cours de ce projet de faire le monitoring du traitement d'informations concernant les médias en ligne, renforcer la capacité des journalistes face aux fake news, mais aussi instruire les blogueurs et la société civile. Sermé Lassina, président du REPRELSI.
Les résultats sont positifs pour le REPRELSI dans ce sens que toutes les activités qui étaient prévues pour la Côte d'Ivoire et que le REPRELSI devrait piloter mettre en œuvre l'ont été. La population continue de demander des équipes de formation et d'éducation aux médias. Tout ceci pour dire que c'était un projet important et pertinent. Si vous voyez que les populations cibles et bénéficiaires continuent d'en demander, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt et c'est extrêmement important.
Exécuté en Côte d'Ivoire et en Guinée, ce projet a pour objectif de contribuer à consolider une paix durable en Afrique de l'Ouest et se concentrer sur le rôle positif que peut jouer la société civile et les médias numériques en matière de prévention des conflits. Alpha Diallo, président de l'association des blogueurs de la Guinée.
Le projet Impact a eu plusieurs acquis en Guinée. D'abord, de stimuler la production journalistique en matière de lutte contre le désordre informationnel de façon globale. Et nous avons fait beaucoup d'éducation aux médias, nous avons testé plusieurs approches.
Notons que le projet Impact a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, Martina Borovac de l'Union européenne.
Je pense que tous ces résultats vont rester pérennes dans l'environnement médiatique en Côte d'Ivoire et dans la région.
10 grandes villes de la Côte d'Ivoire ont été visitées, parmi lesquelles San Pedro, Dabou, Diokoué et Abidjan.
Direction San Pedro, où la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a organisé la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Objectif de ces journées, réfléchir à l'impact du changement climatique sur la sécurité au travail tout en relevant les défis et stratégies d'intervention. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Central.
La double célébration de la journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se présente comme un support d'élaboration de mécanismes de prévention des risques d'accidents au travail, selon Bamba Ahmed, conseiller technique du directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Depuis 2019, la CNPS gère le régime social des travailleurs indépendants, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont dans le secteur informel. Et ces journées qui se tiennent ici à San Pedro est un lien fort avec ce secteur-là, dans la mesure où il s'agira d'identifier les différentes actions en matière de prévention pour le secteur informel et de trouver des solutions à l'effet de les couvrir efficacement au niveau des accidents de travail. Il s'agira, à travers aussi cette journée, d'identifier les risques nouveaux qui apparaissent avec le changement climatique.
Koutopo Makanda, contrôleur en prévention des risques professionnels à la CNPS, cette rencontre applique un intérêt particulier au secteur d'activité à forte potentialité de risque.
Cette année, nous réfléchissons sur des secteurs d'activité à fort potentiel de risque. C'est l'agriculture, les bâtiments et travaux publics, mines et carrières et éventuellement l'industrie manufacturière et les services de santé. Notre commune nationale gravite autour du secteur agricole. Il est donc important pour nous de faire en sorte que les acteurs du monde agricole soient pris en compte et soient protégés.
Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, plus de 2 millions de travailleurs perdent la vie du fait des accidents de travail et des maladies liées à leur activité professionnelle. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Hors des frontières ivoiriennes, au Burkina Faso, Human Rights Watch accuse l'armée d'avoir exécuté au moins 223 civils armés aux prises avec les groupes djihadistes, dont au moins 56 enfants ont été tués lors de 2 attaques dans le nord du pays. Dans un rapport qui a été publié, l'information a été donnée aujourd'hui. Les auteurs de l'attaque disent avoir interrogé 23 personnes par téléphone, dont 14 témoins des assassinats et vérifier des vidéos et des photographies partagées par des survivants. L'invité de la rédaction de ce vendredi, Kone Vazoumana, voilà, président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, qui est une plateforme des organisations de la société civile ivoirienne pour la bonne gouvernance des ressources du secteur minier. Avec notre invité, nous revenons sur les propositions de la société civile sur la réforme du code minier ivoirien de 2014. Kone Vazoumana est interrogé par Jean-Mélène Biti.
Kone Vazoumana, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les principaux objectifs de la réforme du code minier 2014?
Cela fait maintenant 10 ans que ce code minier de 2014 est mis en application et adopté et promulgué. Donc, après ces 10 années de mise en œuvre, le gouvernement envisage de réformer au regard de ses insuffisances. Et au niveau des insuffisances, aujourd'hui, le gouvernement, en termes d'objectifs, voudrait un code minier qui prenne en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes, dont la société civile, les communautés qui sont également impactées par les activités d'extraction minière. Il y a un certain nombre d'axes qui ont été identifiés au niveau des axes sociaux, des axes environnementaux et les axes économiques qui guident et qui guideront bien sûr cette nouvelle réforme.
Comment la réforme vise-t-elle à améliorer la transparence dans le secteur minier?
C'est là toute la question que nous tous nous devrions nous poser et c'est la même question que la société civile s'est posée. C'est pourquoi d'ailleurs la société civile depuis toutes ces années a mené des actions auprès des communautés, a fait des actions de consultation et même a conduit des projets de développement local en contact permanent avec ces acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont des acteurs qui sont des décideurs pour pouvoir mener une bonne réforme du code minier en Côte d'Ivoire.
Alors pour cette réforme-là, est-ce qu'il y a une part belle qui est faite aux communautés locales pour qu'elles bénéficient des activités minières?
Quand on veut travailler pour quelqu'un, il faut d'abord faire en sorte que la personne reste en vie, qu'on réunisse toutes les conditions pour permettre à cette personne, bien sûr, de s'épanouir. Et les communautés aujourd'hui sont une partie importante pour lesquelles les gouvernants développent des actions de développement en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, la société civile, en fait, est l'interface et permet aujourd'hui d'assurer une garantie de la prise en compte de leurs préoccupations et tout ce qui peut améliorer durablement leurs conditions de vie.
Alors justement, ces populations-là font partie de l'environnement de ces sociétés minières, qu'elles soient industrielles, semi-industrielles ou artisanales. Comment la réforme prend-elle en compte la protection de l'environnement et le développement durable?
C'est là le gros souci de la société civile, parce que nous avons constaté beaucoup de faiblesses en termes de protection de l'environnement et qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Le code minier a été adopté en 2014. Et la Côte d'Ivoire a renforcé ses engagements climatiques en 2015 avec l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire a décidé dans sa politique forestière restaurer 20% de son couvert forestier dégradé à l'horizon 2030. Donc au regard de ces engagements que la Côte d'Ivoire prend vis-à-vis de l'environnement et également du développement durable, la société civile à son niveau travaille à cela, a également mis dans ses propositions que ces engagements soient respectés dans le nouveau code qui va venir pour mieux garantir la protection de l'environnement et les droits environnementaux des communautés locales.
En termes de défis, quels sont les potentiels défis à la mise en œuvre de cette réforme?
Le premier grand défi, c'est d'amener toutes les parties prenantes qui ont des intérêts divergents ensemble et les engager sur le processus, de telle sorte que nous ayons un code minier adapté à la réalité du terrain et à l'implication des parties prenantes. L'autre défi, c'est le respect des engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Comment allons-nous faire en sorte pour concilier l'exploitation minière avec la protection de l'environnement? L'autre grand défi, c'est les droits humains. On a l'insécurité qui est souvent occasionnée par l'exploitation minière. On a l'extrémisme violent. Et comment nous allons faire face à relever les défis de la sécurité sur le plan national et également international face à l'extrémisme violent? Prendre en compte cette population impactée par les exploitations minières, puisque l'exploitation minière crée souvent la délocalisation des villages qui vont impacter d'autres villages. Donc ces communautés-là, elles perdent leurs terres. Et l'autre défi qui est assez important, c'est comment on va fermer les mines et comment on va les réhabiliter. Et quand on parle de réhabilitation des sites miniers, il ne s'agit pas d'aller fermer le trou, mais c'est tout un système qu'il faut prendre en compte, dont la réhabilitation communautaire qui tient beaucoup à cœur à la société civile.
Alors, Kone Vazoumana, je vous remercie.
Merci et merci à toute la rédaction de Radio La Paix.
Kone Vazoumana, président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, invité de la rédaction, répondait à Jean-Mélène Bitti. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. La Côte d'Ivoire, pays recommandé pour investir, c'est l'avis des acteurs majeurs du monde économique et financier réunis hier jeudi 25 avril à Abidjan pour la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. 20 juges et procureurs de l'institution judiciaire de Mans ont renforcé leur capacité du 23 au 25 en droit pénal et de genre, formation qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire. Fin de ce journal, l'information sera de retour à 15h pour le Flash. Mais avant, suivez la revue de presse présentée par Jean-Claude Comé sur Radio de la Paix.
Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne passent en revue leurs relations diplomatiques, économiques et commerciales. Et cela à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire du président du Conseil européen qui a échangé hier avec le président ivoirien. Le Patriote rapporte à ce propos qu'Alassane Ouattara et Charles Michel se sont félicités de la vitalité de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UE. Occasion, signale le matin, pour le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara de dire merci à l'UE pour le soutien à l'Académie de lutte contre le terrorisme basé à Jacksonville, mais aussi pour Charles Michel, le président du Conseil de l'Union européenne, de réaffirmer le soutien de son organisation à la Côte d'Ivoire. C'est le cas de la lutte contre le terrorisme, notamment.